Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria France, comment allez-vous bien? Alléluia! Quelle joie de vous retrouver pour la catéchèse. Et aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau cycle qui, bien sûr, est complètement en lien de ce que nous avons scruté les fois précédentes, car lorsque nous parlons du contenu de la foi, lorsque nous parlons du mystère du royaume de Dieu, de sa parole, des mystères révélés, eh bien, on nage dans des réalités qui sont à la fois diverses et variées et à la fois tellement une. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer une série de catéchèses sur l'Église. Accrochez-vous. On va prendre le temps qu'il faut, car c'est très vaste, bien sûr, et il nous faut voir plein de choses. Vous allez voir à quel point c'est riche, et nous allons aborder plein de sujets différents. Aidés par cela, par bien sûr le catéchisme de l'Église catholique, et puis par quelques catéchèses du pape François sur justement l'Église, donc... c'est parti. Donc aujourd'hui, nous allons avoir une introduction, une catéchèse introductive sur cette grande, belle et si spéciale réalité qu'est l'Église. Alors confions cette catéchèse d'aujourd'hui et toute cette série de catéchèses qui s'ouvre devant nous à la Vierge Marie, Mère de l'Église. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous savez que du temps de Jésus, tout le monde n'a pas reconnu immédiatement le grand mystère de la personne de Jésus. Certains, lorsqu'ils l'ont rencontré, ce Jésus de Nazareth, que ce soit à Nazareth lorsqu'il était petit enfant, petit garçon dans l'ambiance du village, ou plus grand, ou dans sa vie apostolique, sur les routes, sur les chemins, tout le monde n'a pas reconnu en Jésus le Fils de Dieu. Je dirais même que la plupart des gens n'ont pas reconnu. Et il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reconnu. Et il disait, celui-là n'est-il pas Jésus, le fils de Joseph, dont nous connaissons le père et la mère? Comment peut-il dire maintenant, je suis descendu du ciel? C'est à Capharnaüm. Quand Jésus va parler de son corps, de son sang, vraie nourriture, vraie boisson, sa chair à manger, son sang à boire, qu'est-ce qu'il nous raconte là? En plus, il nous dit qu'il descend du ciel, mais est-ce qu'il n'est pas le fils de Joseph? On le connaît, à Nazareth, lorsqu'il était revenu dans la synagogue. Il ne fit pas beaucoup de miracles parce que justement, nous dit l'Évangile, il n'y a pas beaucoup de gens qui portaient sur lui un regard de foi, mais beaucoup de gens qui ont porté sur Jésus un regard purement humain. Et que humain. Étonné par ce monsieur, cet homme, prédication un peu particulière, mais bon, intéressante, mais... Et puis, bizarre quand même. Ce Jésus, il fait des trucs bizarres. Le jour du Shabbat, il ne parle pas comme les scribes et les pharisiens. Bon. Alors, toutes ces personnes qui ont posé un regard purement superficiel sur la personne de Jésus, vous comprenez que ils n'ont pas dépassé l'écorce des choses, ils sont restés très à l'extérieur, très en périphérie. Oh, ils ne sont pas des inconnus pour Jésus, bien sûr, mais Jésus est demeuré un inconnu pour eux. Bien qu'ils aient entendu des petites choses, ils ont vu ce que nos yeux ont vu, ce que nos oreilles ont entendu, ce que nous avons contemplé. Ben, pour la plupart des gens, ce n'était pas le verbe de vie, mais un type bizarre. Bon. Et puis, d'autres personnes se sont dit quand même, il a des qualités exceptionnelles, ce gars-là. Je me rappelle, on était nombreux, on était fatigués. Et puis, au lieu de repartir dans les villages acheter à manger, ah, il a fait quelque chose d'un peu spécial. Il n'y avait que 5 pains et 2 poissons, et puis on a pu tous manger. Il y a un truc que... Mais quand même, il a fait quelques miracles. Et puis, ouais, j'étais le cousin du cousin qui a fait un mariage à Cana. Et puis, apparemment, à la fin, un peu, le séjour de cérémonie, il manquait un peu de vin. Et puis, apparemment, bah, au lieu d'aller en acheter, ils sont allés vers ce monsieur Jésus-là. Et puis, il a quand même transformé l'eau en vin. Bon. Puis moi, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît Jaïr. Ah, on l'a bien vu mort, hein. Et puis Lazare, ça faisait 4 jours déjà. Donc il y a des trucs spéciaux quand même. Il a des qualités exceptionnelles, ce Jésus. Il fait des choses que personne n'a fait auparavant, ça c'est sûr. Et puis, dans son enseignement, il y a quand même plus que des choses bizarres, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la sagesse. On prend plaisir à l'écouter longuement. Et on ne regarde pas sa montre. Quand il parle, ça chatouille le cœur. D'autant plus selon nos renseignements, il n'a pas été aux écoles comme les autres garçons juifs. D'où lui vient cette sagesse? Il parle bien quand même, hein? Quelque chose qui est répandu sur ses lèvres, certains diront la grâce, mais bon, en tout cas, il y a quelque chose. Et puis, la sainteté de sa vie. C'est vrai qu'on... Au niveau de sa sainteté, il y a quelque chose d'irréprochable. Ça interpelle. Il y a quelque chose d'unique là qui se passe. Et il y a une puissance. Parce que pour transformer l'eau en vin, pour multiplier le pain, les poissons, il y a une puissance. D'où lui vient cette puissance? Qui n'est pas celle d'un homme. Uniquement. Peut-être que c'est un prophète. Ah, peut-être qu'il est envoyé par Dieu. Arrivé dans la région de Césarée de Philippe, Jésus posa à ses disciples cette question. Au dire des gens, qu'est le Fils de l'homme? Ils dirent, pour les uns, Jean le Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres encore, Jérémie ou quelqu'un des prophètes. Ah, Nicodème ira voir Jésus de nuit. Nul ne peut faire ce qu'il fait s'il n'est pas envoyé par Dieu. Tu es envoyé par Dieu, toi, Jésus, c'est ça? Dis-nous un peu. Mais il ne suffit pas d'être touché ponctuellement par Jésus. Il ne suffit pas d'être étonné. Il faut rentrer dans le mystère. Et beaucoup de gens sont restés encore en périphérie. Ils ont eu comme un a priori de bienveillance, un a priori positif. Ouais, c'est un gars bien, cela. Et c'est injuste ce qui lui arrive par les Romains, voyez. et de la part des grands prêtres et de l'aristocratie religieuse et tout ça. C'est injuste, parce que c'est un homme de bien quand même. Insuffisant regard, insuffisamment pénétrant sur le mystère de Jésus. Et voilà que le troisième regard que nous pouvons porter sur Jésus, c'est le regard de foi surnaturelle. Ceux qui ont cru au Verbe fait chair. Et à partir de ce regard de foi, ils se sont délectés de voir Dieu à l'œuvre à travers l'humanité sainte de Jésus. J'ai cru, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors Thomas, ouais, si je vois, si je touche, je croirai. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Et ce même Thomas qui justement posera ce regard de foi et cette proclamation de foi sur Jésus, 8 jours après la résurrection, mon Seigneur et mon Dieu. De quel Dieu parles-tu? De Adonai? Non, ce Dieu Jésus, ben oui, c'est le même. C'est un choc. Quand tu te prosternes devant Jésus, tu te prosternes devant ton Seigneur et ton Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Voilà le troisième regard que nous pouvons porter sur Jésus, bien sûr, qui est le regard de foi. Alors pourquoi je vous raconte toutes ces choses? C'est parce que sur l'Église, nous pouvons avoir différents regards. Le premier niveau, c'est, si vous voulez, le regard de l'observateur superficiel, celui du statisticien, de l'historien des religions. On apprend ça, les religions, au séminaire. Bon, c'est intéressant. Alors voilà, un peu l'hindouisme, l'islam, le christianisme. Mais on reste à un niveau descriptif. Voilà le musulman qui fait 5 fois sa prière par jour. Voilà avec son pèlerinage. Voilà le chrétien qui fait ci, qui fait ça. Voilà l'hindou qui fait ci, qui fait ça. Bon. Comportement religieux. Pratique religieuse. Ben, l'Église, une société religieuse parmi d'autres. Et alors là, ben voilà, on analyse. On essaie de comprendre les comportements des uns, des autres. Et puis à l'égard de l'Église, ben son type de gouvernement, sa hiérarchie, comment c'est organisé, comment ça fonctionne. Son enseignement. Ses usages cultuels. Ces choses que l'Église appelle les sacrements, ses prières, ses rites, ses liturgies, paraliturgies, son calendrier liturgique. Bon. Apparemment, Jésus serait ressuscité selon les chrétiens. Bon. Ben, selon d'autres, non, pas plus que ça. Selon l'islam, bon, Jésus, il n'est pas vraiment mort. Hein. Il était remplacé. Bon. Vous comprenez que le regard du journaliste reste au niveau descriptif, comportemental, et ne dépasse pas l'écorce des choses. Très important d'intégrer ça, parce que sinon on peut passer sa vie à observer et à décrire ce qu'on observe. Mais le descriptif ne dit pas ce qu'est la chose. Aussi bien sur la personne humaine que sur l'Église et d'autres réalités. Vous pouvez m'expliquer comment vous fonctionnez, comment Madame Intel fonctionne, son caractère, son comportement, mais cela ne me dit pas qui est profondément cette personne. Alors un observateur pénétrant ira peut-être un peu plus loin et il reconnaîtra dans cette Église des valeurs Surtout en Europe, où nous sommes dans une civilisation chrétienne, même si les chrétiens se comptent sur les doigts de la main, nous sommes encore un peu imprégnés d'un point de vue civilisationnel, bien sûr, en Europe. Alors on a intégré des choses, on a intégré des valeurs, on se dit que dans l'Église, il y a comme quelque chose qui perdure, quelque chose de constant, une force d'imprégnation de la vie même de la société, de la vie de la cité. Il y a un lien entre ce qui est vécu par les chrétiens et leur manière de vivre, concrètement, dans la famille, dans la cité, dans les lois, qui deviennent de plus en plus iniques, étant donné justement la déchristianisation. Si vous enlevez le Christ, le christianisme, l'Église, ben forcément les hommes vont fabriquer des lois différentes. Il y a donc tout une empreinte, une constance, une universalité aussi qui perdure dans le temps. Il y a comme des effets de quelque chose, peut-être d'une, osons le mot pour quelques observateurs plus pénétrants, de sainteté. Il faut reconnaître quand même que cette Église produit des gens remarquables. Alors tout le monde aimera Mère Teresa. Tout le monde reconnaîtra que ben, telle religieuse, tel religieux, tel prêtre, ah, ils ont fait des choses extraordinaires. Don Bosco, qu'on ait la foi ou pas, on peut reconnaître Joseph Cottolengo, Turin, Don Bosco. Mais la liste est extrêmement nombreuse. C'est impressionnant ce que l'Église produit en termes d'œuvres, par exemple, caritatives, sociales, d'éducation. Et qu'on a construit non seulement des cathédrales, mais on a construit des écoles. On a instruit, on s'est occupé des enfants, des ados, des couples, des familles, des personnes âgées. On a construit des hôpitaux qui ne sont pas des mouroirs, mais au contraire des lieux d'accompagnement des gens jusqu'au ciel. Parce que pour les chrétiens, c'est important, oui, le ciel. À l'espérance aussi. Donc on voit bien que cette Église est chargée de choses extraordinaires. En quelque sorte, miraculeux. Il y a donc, pour l'observateur qui n'est pas empreint d'a priori négatif ou d'idéologie ou d'anticléricalisme, il y a quelque chose quand même en toute honnêteté de spécial. Il y a quelque chose qui se passe. L'Église n'est pas comparable à d'autres structures ou réalités. C'est autre chose. Qu'est-ce que c'est? Bon. Et puis, eh bien, comme à l'égard de Jésus, nous pouvons porter un regard surnaturel, un regard de foi sur l'Église. Alors là, on va dépasser les manifestations, les œuvres, les effets pour entrer dans le cœur de ce qu'est l'Église. Et alors là, il faut que le Seigneur nous le révèle. La foi est un don de Dieu, un don contemplatif qui nous permet de contempler ce que Dieu fait, non seulement Dieu, mais ce que l'œuvre de Dieu. Et donc l'Église. Il y a donc là un mystère, on dira. Dans sa réalité profonde, l'Église, on verra, on va le verra, on va le voir. On pourra dire des choses étonnantes, comme l'Église est le corps du Christ. Waouh! Plus que d'être une ONG, une méga structure à faire du bien, malgré le péché de ses membres, nous y reviendrons. On pourra dire des choses étonnantes dans la foi, l'Église est le corps du Christ, habité par l'Esprit Saint. dirigé même par l'Esprit Saint. Ah bon? Oui. Vous avez remarqué que nous avons passé du temps sur l'Esprit Saint avant de parler de l'Église. C'est normal. Parce que si on croit en l'Esprit Saint, si on croit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, alors on sera à même de découvrir le véritable mystère de l'Église, dirigé par l'Esprit Saint, en qui l'Esprit Saint demeure. Et voilà, c'est ça que nous proclamons chaque dimanche. Credo unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam. C'est joli. C'est le credo en latin, il est joli le credo en latin. Unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam. C'est joli, hein? À la lumière de la foi, voilà qu'on arrive au cœur de ce que c'est que l'Église. Je crois à la fois à l'Église, à la Sainte Église catholique, c'est le symbole des apôtres, Credo Sanctam Ecclesiam Catholicam, c'est la version courte, vous savez, du credo. Donc je crois à la Sainte Église catholique, je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique, c'est ce que je viens de dire en latin. C'est le symbole de Nicée-Constantinople, la version longue. Je crois à la fois à la Sainte Église catholique, en l'Église, cette Église, une sainte catholique et apostolique. Nous y reviendrons, c'est ce qu'on appelle les notes de l'Église, nous y reviendrons en détail. Voilà donc que l'Église est objet de foi, c'est un truc bizarre, normalement on croit en Dieu, on croit Dieu. Et mais l'Église, comment ça se fait qu'on croit en un truc que, ben justement, on va le voir, c'est que l'Église n'est pas simplement seulement objet de la foi, comme on le dit dans le credo, et c'est une particularité tout à fait unique, c'est que nous sommes nous-mêmes l'Église, comme on dit, c'est-à-dire que nous sommes ceux et celles qui professons notre foi, nous croyons en l'Église et nous sommes en même temps l'Église qui croit, du verbe croire, et qui prie. Nous sommes l'Église dans sa visibilité qui exprime sa foi dans sa propre réalité d'Église. Tout à fait étonnant. Parce que notre propre réalité d'Église, elle est divine et humaine, les deux, mon capitaine. Deux dimensions inséparables. Ah oui, voilà. L'Église, elle est à la fois divine. C'est en cela que nous pouvons croire à la Sainte Église catholique, en l'Église, une sainte catholique apostolique, et en même temps, d'une manière inséparable, bien sûr, humaine. Divine et humaine, ça vous fait penser à qui? Eh bien, quelqu'un qui est vrai Dieu, vrai homme, et qui s'appelle Jésus. Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Ce que nos mains ont touché, ce que nous y ont vu, contemplé, ce que nous avons contemplé, c'est le Verbe. Un regard de foi sur la personne de Jésus. Et en même temps, ce qu'on touche, ce qu'on voit, ce qu'on entend, oui, c'est le Verbe. Jésus est vrai Dieu. Sa personne est divine. Il n'a pas une personne humaine, Jésus, non. Sa personne est divine. Il est la deuxième personne de la Sainte Trinité, avec deux natures. Nature divine, il est Dieu, 100% Dieu. Et prenant chair de la Vierge Marie, il s'est fait homme. Voilà qu'il assume en lui une vraie nature humaine, la nôtre. Il est donc vrai homme, mais non pas pur homme. Je reprends cette phrase magnifique du cardinal Charles Journet, que j'aime beaucoup. et qui fait bien comprendre, Jésus est vrai homme et non pas pur homme. Une nature humaine en tout, excepté le péché. Alors voilà qu'il n'est pas étonnant que le fondateur, nous y reviendrons, lorsque nous parlerons de l'origine de l'Église, que cette réalité de l'Église, à la fois divine et humaine, fondée par Jésus, vrai Dieu, vrai homme, il n'est pas étonnant alors qu'il y ait ces deux dimensions, encore une fois, inséparables. Dès que je quitte le regard de foi sur l'Église, je tombe sur un regard purement humain. Et alors là, je peux me cogner non seulement à ce qui fonctionne bien, mais en général, on se cogne à ce qui ne fonctionne pas très bien. L'Église est donc une réalité complexe, pas forcément facile à vivre, en raison justement de l'humanité qui est la nôtre, chacun. Et dans la vie, comme c'est dans la vie des interrelationnels, nos relations ne sont pas faciles forcément tous les jours. Eh bien, dans l'Église, ce sera comme ça. Ce ne sera pas facile. Alors, nous verrons, est-ce que le fait que ce ne soit pas facile, le fait que nous expérimentions chacun le péché, est-ce que ça enlève, est-ce que ça touche à la réalité de l'être de l'Église, de ce qu'est profondément le mystère de l'Église? Certains seront blessés par des gens dans l'Église, en général l'autorité hiérarchique, prêtres, évêques, cardinaux, papes, et feront de cette blessure des occasions malheureusement de distance, distanciation, de vraies difficultés après. Schisme, perte de la communion. D'autres choisiront un autre chemin, celui du pardon, celui de la sainteté, en laissant leur cœur blessé saigner et porter du fruit à la suite de Jésus. Nous aurons l'occasion d'y revenir lorsque nous parlerons bien sûr de la sainteté de l'Église. De quoi parlons-nous lorsque nous parlons justement, je crois, en l'Église, une, nous parlerons de l'unité de l'Église, sainte, la sainteté. Comment osez-vous dire que l'Église est sainte, mon père? Vous avez vu tous les scandales? Toutes les horreurs. Nous y reviendrons. Catholique, qu'est-ce que ça veut dire, catholique? Et les protestants alors, et les orthodoxes? Bon, nous en parlerons. Apostolique. Bon, peut-être qu'elle est plus facile à comprendre, cette note, quoique, comme dirait Raymond DeVos. Alors, l'Évangile nous vient en aide. Je te le dis, c'est Jésus qui parle à Simon. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, mon ecclésia. Et les portes de l'Hadès ne tiendront pas contre elle. Waouh! Tout ça parce que moi je t'ai dit que tu es le Fils du Dieu vivant, le Messie, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oui, parce que c'est le Père qui t'instruit, Simon. Et quand tu te laisses instruire par le Père, tout homme qui se met à l'écoute du Père et vient à son école vient à moi, dit Jésus par ailleurs. Donc quand Simon se laisse instruire par le Père, il vient à Jésus et il proclame dans la foi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors tu vois cette foi que tu as dans ton cœur, garde-la, c'est précieux. Et c'est sûr, c'est sur ta foi, Pierre. J'ai prié pour toi, Pierre, pour que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Et puis, bon, on aura l'occasion, bien sûr, d'y revenir au triple reniement de Pierre le jeudi saint, correspondra à une triple profession de foi et une profession, une confession d'amour. Tu sais bien que je t'aime. Et on reconnaîtra à la suite de Pierre, chacun de nous, que ce n'est pas nous qui avons choisi le Seigneur. Mais c'est lui qui nous a choisis et qui nous a établis pour que nous allions et que nous portions beaucoup de fruits. Et que, ô bonheur, nous pouvons vivre notre vie chrétienne non pas appuyée sur nos propres choix, notre propre force, mais sur le choix de Dieu sur nous. Ça, ça tient. Alors, si c'est Jésus qui a fondé et qui choisit de passer à travers l'Église, ça tient, oui. Mais si l'Église dépend de nous, alors là, c'est mort. Alors, en raison de ce mystère, de l'incarnation, du Verbe fait chair, deuxième personne de la Sainte Trinité qui assume une nature humaine, vrai Dieu, vrai homme, eh bien, si nous accueillons le mystère de Jésus, c'est pour ça que je vous ai parlé de Jésus au début. C'est le même pour nous lorsque nous portons un regard de foi sur la personne de Jésus. Ça nous amène à porter un regard de foi sur l'Église. Et à accepter que tout ce qui dans l'Église est humain, par le fait même que le Fils de l'homme assuma une nature humaine, solidaire, entre guillemets, de notre nature humaine, alors là, pour le coup, pécheresse, alors que lui, il est sans péché. Si nous acceptons que ce nouvel Adam a pris sur lui tout le péché de l'humanité, dont les reniements du chef des apôtres, nous devons être inclinés à penser, et à penser très sérieusement, que les péchés des membres de l'Église ne doivent pas nous faire refuser ou rejeter l'Église. Mais au contraire, cela doit nous inciter à une acceptation plus profonde, un amour plus grand de l'Église. Car nous savons précisément que dans l'Église et par l'Église, eh bien nous expérimentons d'abord la puissance de la rédemption, la révélation du Rédempteur. Nous avons accès au Rédempteur par l'Église. Ainsi donc, il nous faudra peut-être, pour certains d'entre vous, chers auditeurs et auditrices de Radio Maria France, vous réconcilier avec l'Église. J'espère que ce sera un chemin pour certains, peut-être, au cours de l'écoute attentive de ces catéchèses sur l'Église que nous commençons aujourd'hui, peut-être un chemin de réconciliation à l'égard de telle ou telle personne qui vous a blessé dans l'Église, tel ou tel prêtre, évêque, ou simplement laïque, hein, bien sûr. Et peut-être tel événement qui vous avait fait, bon ok, c'est bon, l'Église, j'oublie. J'arrête. Ah ouais, j'ai commencé à cheminer, au début c'était bien, et puis je me suis pris des manques de charité, et j'ai rejeté le bébé avec l'eau du bain. Alors j'ai gardé ma petite relation avec le Seigneur, mais l'Église ne m'en parlait plus, c'est fini. Vous voyez. Eh bien, tu n'en sortiras pas d'ici sans avoir payé jusqu'au dernier sou, c'est-à-dire que le bon Dieu va te courser. Eh oui. Et l'Église aussi. Le mystère de l'Église va te hanter parce qu'il s'agit bel et bien d'être réconcilier non seulement avec Dieu, mais avec l'Église. Lorsque nous recevons l'absolution sacramentelle pour ceux et celles qui se confessent, non seulement nous recevons la réconciliation avec le Père, avec Dieu, mais avec l'Église. Alors, osons entrer dans ce regard de foi. Osons regarder la réalité humaine aussi, qui n'est pas parfaite. Bien sûr. Pour entrer dans ce cheminement avec l'Église, sur l'Église. Ce regard de foi, je vais terminer par là, et c'est quelque chose d'important, est à entretenir, par la prière bien sûr, à aiguiser. Et c'est le point de départ pour nous. Car si nous partons sur les deux autres regards, du style observateur extérieur, descriptif, on sera toujours à partir de nous, à partir de notre regard à nous, de ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas, ce qui nous attire un peu, ce qui ne nous attire pas trop. C'est un regard en fonction de notre éducation, de notre milieu familial, du catéchisme qu'on a reçu, ben voilà, plus ou moins pollué à l'égard de l'Église, vous voyez. Et du coup, on restera en périphérie, superficielle. Et on aura beau expliquer ce qu'est l'Église, si nous restons dans notre raisonnement sans le regard de foi, on ne sera pas convaincu. Parce qu'encore une fois, vous aurez beau expliquer et dire aux gens, vous savez, Jésus est ressuscité, ça leur fera ni chaud ni froid. Ils auront beau voir quelqu'un ressuscité des morts, ils ne croiront pas, dit Jésus. Comment ça se fait? Parce qu'ils sont dans leur tête. Cachés aux sages et aux savants, révélés aux tout petits. Mais ça, c'est le mystère de Dieu, ça, c'est pas l'Église. Ben justement, l'Église fait partie du mystère de Dieu. On ne peut pas séparer la Sainte Trinité de la Vierge Marie, de tous les saints, du mystère de l'Église. On ne peut pas séparer la Trinité, le Christ et l'Église. On le verra lorsque nous parlerons de l'Église épouse du Christ. Comment vous séparez l'époux et l'épouse, vous? C'est pas possible. Comment vous séparez la tête du corps et le corps? C'est pas possible. Alors, ceux qui disent « Jésus, oui, mais l'Église, non ben, », je suis désolé. Tu parles à partir de toi-même, pas à partir de la révélation de Dieu. Parler de l'Église, entrer dans le mystère de l'Église, il faut partir de Dieu, si vous voulez, sinon c'est trop court. Et puis, nous parlerons du pape. Tiens, voilà. Ouais, le Saint-Père, mais enfin, quand même. Pareil. Soit nous parlons de nous, à partir de nous, soit de Dieu. C'est ça le regard de foi et la parole de foi. C'est l'origine du regard et de la parole qui est différente des autres regards et des autres paroles. Alors, lorsque nous regardons, lorsque nous parlons, d'où parlons-nous? De statistiques? Bon, et alors? De Dieu? Ah, d'accord. Alors, Vierge Marie, toi qui n'as cessé de regarder avec foi ton Fils bien-aimé, le Fils bien-aimé du Père. Mais tu as des yeux humains, Marie, tu as des mains humaines, tu as porté dans ta chair, dans ton corps. Tu as donné ton sang, Tu l'as couvert de baisers, et c'est une vraie bouche que tu as, Marie. Oui, des vrais baisers. Aïe, au vrai corps du Christ. Vraiment humaine, Marie. Oui. Qui est celui que tu dorlotais? Qui est celui que tu embrassais? Ah, ben c'est le Fils de Dieu fait homme. Tu as adoré, au sens strict, ton Fils. Vrai Dieu, vrai Dieu. Vrai homme, alors, l'Église, Marie, tu as un rapport très spécial avec elle et merci de nous faire entrer dans le vrai regard sur l'Église. Vierge Marie, nous te confions encore une fois toute cette série de catéchèses et nous te remercions d'être un membre suréminent de l'Église du Christ et d'être sa mère. Veille sur nous, veille sur l'Église. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de Radio Maria France et je vous donne la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.